Bonjour, ici Hugo Prévost. Vous écoutez Rembobinage, votre rendez-vous cinéma-télévision. Aujourd'hui, épisode 84, évidemment avec Kevin Laforêt. Salut Kevin.
Salut Hugo,
ça va bien? Toi, écoute, on se parle très très souvent ces temps-ci, j'aime ça. C'est bien agréable, évidemment. Et aujourd'hui, on a un invité avec nous, Édouard Tremblay. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Édouard, tu es le réalisateur d'un film qui va sortir bientôt, dépendamment, bon, évidemment, si on nous impose un embargo ou non sur cette entrevue. Tu es le réalisateur de Farador. Donc, Farador, un film qui va certainement rappeler des choses à peut-être aux gens les plus âgés de notre auditoire. Donc, Farador qui était, bon, le court-métrage à l'époque, 2005, je ne veux pas me tromper. 2005, donc avec le titre alternatif, c'était pas, tu penses, de Tom et ses chums. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut le retrouver, entre autres, sur YouTube.
C'est un épisode de Tom et ses chums et ça s'appelait La bataille de Farador.
Voilà, exactement. Donc, moi, je me souviens à l'époque, j'étais au cégep encore et c'était au club informatique, grand repère des nerds et autres geeks. C'était une référence, un classique. Donc, on était très heureux. Je pense qu'Evan et moi, on était très contents de voir qu'il allait avoir finalement un film, une version, pas exactement une version longue, mais en tout cas, il y a un film qui s'inspire très largement, qui reprend des éléments de la bataille de Farador dans un long métrage qui sort donc le 21 avril. Je sais que ça a été un long processus. Il y avait récemment une entrevue, en tout cas quelques mots dans Le Devoir qui disait que ça a pris beaucoup de temps à voir, notamment du financement. Mais avant qu'on plonge là-dedans, pour ceux qui ne connaissent pas ça du tout, est-ce que tu aimerais nous résumer quelques mots, là, ce que c'est Farador exactement?
Farador, dans le fond, c'est les aventures d'un groupe d'amis qui joue une partie de jeu de rôle à la Donjons et Dragons depuis 15 ans. Depuis 18 ans. Ils se sont connus quand ils étaient jeunes, ont commencé une partie, puis on se retrouve 18 ans plus tard. Et là, à un moment donné, il y a la sœur d'un des membres du groupe qui arrive. Et ça crée son lot de problèmes et de péripéties, et dans la vraie vie, et aussi dans l'univers de Farador, parce que des fois, on plonge aussi dans l'univers de leur jeu. Ça nous permet de faire des parallèles entre leur vie privée et l'espèce d'univers fantastique qu'ils ont créé et où ils s'échappent de la vie quotidienne. Voilà.
Et je pense que c'est un bon timing ces temps-ci parce qu'il y a le film Donjons & Dragons qui est sorti récemment. On enregistre ça au début du mois d'avril. Qui est sorti récemment. Il y avait eu un film à l'époque. On ne parlera pas parce que c'est un peu comme Indiana Jones 4, ça n'a jamais existé.
Est-ce que le 2 et le 3 de ce film-là, parce qu'ils en ont fait 3.
D'Indiana Jones ou de Donjons et Dragons?
Donjons et Dragons 1, 2, 3.
Et bizarre, je ne savais même pas qu'il y avait une suite. bref, est-ce que tu sens que... Bon, c'est la question qu'on aurait pu poser il y a 10 ans, il y a 15 ans. Est-ce que tu sens que maintenant, c'est bon, après Game of Thrones, après tout ça, après cette espèce d'explosion de la popularité de l'univers fantastique, l'univers médiéval, est-ce que tu sens que enfin cet univers-là va aller chercher plus que, comme je l'étais, un geek un peu renfermé sur lui-même dans un local du club informatique du cégep de Bois-de-Boulogne, une quinzaine, une vingtaine d'années presque?
Ben, je pense que c'est indéniable que les jeux de rôle, les jeux vidéo, etc., les grandeurs nature, les jeux de cartes Magic, etc., sont rendus de plus en plus mainstream, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui y adhèrent. Par contre, je ne sais pas si c'est exactement pour ça que mon film s'est fait financer, parce que, bon, il s'est fait financer quand même une couple d'années. Mm-hmm. J'imagine que cette ouverture-là a peut-être un lien. Le fait qu'il y a une population grandissante qui se définisse comme geek. Parce que tu peux être geek de n'importe quoi, de science-fiction, de jeux de rôle, de n'importe quoi, de n'importe quel univers, Star Wars, Star Trek, etc. Avec des geeks, il y en a de tous les acabits, et il y en a beaucoup de jeux de rôle et de donjons et dragons. Donc oui, je pense que le film arrive à ce moment-là, à cette espèce de nexus dans une époque où tout ça devient très populaire, mainstream, like Stranger Things, justement, avec le film Donjons et dragons. Sort et que je n'avais aucune idée avant de savoir que mon film allait sortir en avril, qu'il allait avoir un nouveau film de donjon. Je pensais que c'était mort cette franchise-là parce que On doit s'avouer que justement le premier et ses suites inconnues qu'ils ont faites n'étaient pas tellement bonnes à l'époque. Je pense que là, ils ont peut-être, je ne l'ai pas vu encore, mais je pense qu'ils ont peut-être un peu compris qu'il ne fallait peut-être pas prendre ça trop au sérieux. C'est pour ça que le nouveau film, je pense qu'il fonctionne beaucoup mieux.
Oui, moi j'ai vu le nouveau Donjons et Dragons. Puis c'est quand même le fun. C'est un film à très gros budget, c'est bien fait, mais j'ai pas trouvé que les jokes étaient si drôles que ça. Comparé à, j'ai vu quelques jours après Farador, que j'ai trouvé beaucoup plus drôle, puis intéressant, puis dans le fond un meilleur hommage à, indirectement à Donjons et Dragons.
Merci beaucoup. J'ai hâte de vous faire la comparaison moi-même. En fait, c'est ce qui me faisait le plus peur, dans le fond, c'est si... c'est un truc qui me faisait peur, c'est que ce film-là soit... il paraît qu'il est bon quand même, Donjons et Dragons, le nouveau film, mais j'avais peur d'être comparé parce que ça peut pas être comparable. Mm-hmm. En tant que Donjons et Dragons américain dispose de 100 fois plus de budget qu'un film québécois comme Farador, tu sais, parce qu'il a fallu que je compose avec un budget quand même restreint. Ce qui fait que c'est pas les mêmes enjeux du tout. C'est pour ça que mon film se passe à 75% dans la vraie vie. Mm-hmm. Mettons deux tiers dans la vraie vie. Et un tiers dans l'univers fantastique. Parce que, considérant les moyens qu'on a pour faire des films au Québec, je peux pas vraiment aller plus loin. Faire plus.
Dans le cadre du processus de création, bon, t'es co-scénariste du film, faut le mentionner. T'as travaillé notamment avec Éric Caboulian. Et bon, vous êtes une équipe de quatre. Comment est-ce qu'on s'organise pour écrire un scénario à huit mains rendu là?
En fait, les 12 premières années, j'étais juste avec Daniel Boulanger, qui est un ancien compagnon de Philacta Cola à l'époque. Donc, le scénario, quand Erika Boulian et Marc-Antoine Rioux sont arrivés dans le processus, le scénario était quand même déjà très, très, très avancé. Mm-hmm. Ça faisait déjà plusieurs versions qu'on proposait aux instances de financement et on était refusés à chaque fois. Lorsqu'ils sont arrivés dans le processus, Éric Caboulian est arrivé à un bon moment où justement les modifications qu'on a faites tous ensemble à partir de ce moment-là, ben là, ça a bien passé après. Donc, ils sont comme un peu arrivés en sauveur en fin de parcours et c'est une bonne chose parce que sinon le film serait pas fait probablement. Voilà.
Kevin, je ne sais pas si tu voulais enchaîner.
Oui, je voulais embarquer sur. Tu mentionnais que le financement, ça a pris quand même longtemps à l'avoir. Puis, il me semble que. Ça fait longtemps qu'à chaque fois qu'on entend parler des réalisateurs québécois, surtout quand ils font du cinéma de genre, que c'est vraiment un défi. On dirait qu'au Québec, les institutions ne comprennent pas que, comme tu disais tantôt, pourtant c'est rendu super grand public, Seigneur des Anneaux, Game of Thrones ou Star Wars en science-fiction, tout ça. Pourquoi qu'ils ne comprennent pas qu'il y a clairement un public qui veut aller voir ce genre de film-là?
C'est parce que c'est pas non plus le mandat au gouvernement, je pense, de faire des films ultra populaires. Donc, tout le monde sait que les films fantastiques, les films de super-héros, ça fonctionne. Donc, Québec, Canada, le gouvernement qui finance les films ne sont pas tenus d'être hyper profitables, etc., parce que c'est subventionné par probablement des fonds publics. Par contre, ils ont aussi le mandat de faire des choses très culturelles, très reliées à la culture québécoise. Et malheureusement, la science-fiction et le fantastique et les magiciens, les boules de feu, ces trucs-là ne sont pas considérés comme de la culture québécoise. On a quand même une culture fantastique très développée au Québec. Puis, tu sais, on a des contes et légendes au Québec, ça, j'ai jamais compris pourquoi on ne faisait pas plus de films en ce sens. Probablement parce que ceux qui ont été financés dans le passé, des films de loup-garou québécois ou des trucs comme ça, n'ont pas très bien marché. Fait que peut-être que les financeurs sont frileux. Mais moi, dans mes refus, j'ai souvent eu la note que ceci ne correspond pas à la réalité québécoise, mettons. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas financer le film. D'ailleurs, j'ai pas eu tant de financement que ça. Il y a le Canada qui a embarqué, ce qui fait qu'on a été obligé d'aller chercher en Europe le reste du financement pour pouvoir faire le film, sinon. J'ai été financé en fin de parcours, mais j'ai pas eu toutes les sources de financement ici.
Et quand vient le temps de transposer, parce qu'on va se dire, bon, à la base, je pense que tous les trois, on a grandi justement avec ces univers fantastiques-là, que ce soit du côté médiéval ou bon, science-fiction et tout. Mais justement, c'est parce qu'on a grandi avec ça et les interactions qu'on a, généralement, le premier contact qu'on a, c'est ça. L'enfance, l'adolescence, là, c'est, on parle dans le film, on donnera pas les détails du film, mais c'est largement, des, ben, évidemment, c'est des adultes. J'ai essayé de deviner, mais je pense que c'est des gens bon, dans la trentaine, peut-être même proche de la quarantaine que de la vingtaine.
Non, t'as raison, c'est plus proche de la trentaine.
OK. Mais
c'est vraiment des adolescents.
Oui, mais c'est ça, mais comment est-ce qu'on essaie de naviguer? Ma réflexion que je me faisais durant le film, c'est il y a une ligne très mince entre on prend des adultes, on leur fait avoir des comportements d'adolescents. Même si, bon, il y a effectivement des adolescents, ça existe, et il y a le film, et on essaie de leur donner des comportements d'adultes, mais avec un univers qui est fait pour, à la base, des gens qui sont plus jeunes. Je ne sais pas si tu comprends un peu le sens de ma question, il y a comme une espèce de navigation à faire entre certains écueils, là, rendu là.
C'est une excellente question. En fait, je ne le sais pas parce que, tu sais, moi, j'approche maintenant la cinquantaine. Quand j'ai fait le film, j'étais dans ma trentaine. Mm-hmm. Quand j'ai fait le court-métrage, je parle. Quand j'ai commencé à travailler sur mon long, j'étais aussi à mi-trentaine. Tu vois, moi, je suis encore un gamer, je suis encore un gars qui tripe sur ces univers-là. Fait que je suis pas sûr que c'est tant ancré dans une seule génération, mettons. Mm-hmm. Je pense que c'est juste la façon qu'on l'utilise, peut-être plus que les jeunes jouent à Donjons et Dragons avec des laptops. Puis, mettons, ma génération joue encore avec des feuilles, mais on joue quand même à Donjons et Dragons. Fait que je pense que les univers comme tels, puis le trip geek n'a pas d'âge. Bon, peut-être que nos parents puis nos grands-parents, eux autres, comprennent un peu moins le trip parce qu'ils n'étaient vraiment pas là-dedans. Mais je pense que notre génération, les X et en baissant, c'est des générations où il y a beaucoup de geeks dedans. Donc, tout le monde est propice à rester un peu dans l'adolescence. Autrement dit, je me perçois pas comme un adulte autant que je percevais mes parents comme des adultes.
Okay. Ouais, mais c'est vrai.
Moi, honnête avec soi-même, tu sais, je fais plein de trucs que je sais que mes parents n'auraient jamais fait, mettons.
C'est ça, je trouve vraiment que c'est une réalité des gens de notre âge où je sais que de pas arrêter les trucs de jeunes quand tu deviens un adulte, même quand tu es rendu dans la quarantaine. Côté cinéma, moi, ça me faisait penser à certains films, entre autres les films de Kevin Smith, les Clerks, tout ça, qui a quand même des thèmes sur l'amitié masculine, sur aussi des espèces d'adolescents qui apprennent tranquillement à réaliser leurs rêves, à peut-être un peu s'extérioriser, à devenir un peu moins geek, tout en gardant leurs intérêts. Est-ce que tu dirais que, mettons, Kevin Smith, des trucs comme ça, c'était une influence pour toi?
Définitivement, Clerk et Mallrats ont été des très grosses influences quand j'ai commencé ma série Tom et ses chums. Tom et ses chums, pour moi, c'était une façon pour moi de réaliser rapidement des courts-métrages avec le mouvement Kino pour apprendre à réaliser, parce que en tant que Flacta Cola, j'étais plus scénariste. Mm-hmm. Quand Flacta Cola a été annulé de Télé-Québec, ben là, il a tout fallu se retrouver des jobs. Comme la moitié du groupe, je me suis ramassé à être vanté un day par des boîtes de production de pub. On s'est tous ramassés ou presque à travailler pour des boîtes de pub ou des boîtes de graphisme. Fait que moi, la fin de semaine, ma façon de m'épanouir, parce que quand tu fais de la pub, c'est pas là que tu t'épanouis. Tu remplis des mandats, t'as des clients, etc. Donc, la façon pour moi de créer des choses plus personnelles, c'était de faire des courts-métrages. Et puis, en étant dans le mouvement Kino, ça permet aussi de rencontrer d'autres gens dans le milieu, puis des trucs comme ça. Et de pouvoir faire des tests aussi, puis de faire des erreurs, des trucs comme ça. Et quand je regarde ma série aujourd'hui, je trouve ça vraiment cheap. Mais j'ai eu beaucoup de fun à faire ça, puis j'ai beaucoup appris de ça, puis c'est entre autres à cause de ça que j'ai réussi à faire un long métrage aujourd'hui. Mm-hmm. Donc, c'était un passage nécessaire. Moi, j'ai choisi de faire ce passage-là en faisant une série, en me forçant à faire une série. Et oui, Clerk et Mallrat, à l'époque, avaient des grandes influences dans la façon que je voulais raconter les choses et le sujet. Et
je le disais tout à l'heure, Kevin et moi, bon, on a connu la bataille de Farador à l'époque. Il y a maintenant, c'est ça, quasiment une vingtaine d'années. Ça ne réjouit pas personne, je dis ça souvent, mais c'est vrai. Est-ce que ça prend... Est-ce qu'il faut apprendre cette connaissance-là? C'est-à-dire, ça n'exige pas d'avoir été là il y a 20 ans puis d'avoir connu ça, mais c'est encore sur YouTube, c'est encore facilement trouvable, tout ça. Est-ce que ça exige, selon toi, de dire, avant d'aller voir Farador, écouter le court-métrage, ou finalement, c'est juste... Vous pouvez y aller quand même, puis vous ne perdrez pas au change.
Pour voir le long métrage, ça ne prend absolument pas. On n'a absolument pas besoin de voir le court métrage. En fait, il y a un hommage au court métrage. En fait, le court métrage est quasiment intégral dans le long métrage, de toute façon. C'est une des scènes pivots. Donc, moi, quand j'ai commencé à écrire l'histoire, je voulais savoir qu'est-ce qui se passe avant le court métrage et qu'est-ce qui se passe après. Naturellement, on est 15 ans plus tard, donc quand j'ai fait le film, j'ai pas pu prendre les mêmes comédiens, c'est sûr, on n'était pas des comédiens. Donc, puis il a fallu que je rajeunisse un peu, je pouvais pas prendre du monde de mon âge, donc il a fallu que je rajeunisse le cast pour les mettre plus dans la tranche d'âge que je voulais pour le film. Fait que voilà, donc non. On n'est vraiment pas obligé d'avoir vu le cours. En fait, si tu as vu le cours, c'est un petit bonus parce que si tu as aimé le cours, ben, tu vas aimer revoir un peu les mêmes scènes pendant 15 minutes dans le film, comme un genre de remake dans le fond. Puis là, tu sais, il y a même des dialogues qui sont clairement les mêmes que
dans le cours. Mais pour confirmer qu'on n'a pas besoin de voir le cours, moi, je l'avais vu à l'époque et. Moi, je me suis beaucoup identifié à Farador parce que quand j'étais ado, je faisais des jeux de rôle, tout ça. Je suis pas mal geek. Mais quand j'ai regardé le film, j'étais avec mon épouse qui, elle, qui a, je pense, qui a jamais joué à des jeux de rôle, qui connaissait pas le court-métrage. Puis vraiment, elle a ri tout le long. Elle aimait vraiment beaucoup le personnage de Louis. Elle le trouvait vraiment cute puis attachant, puis tout ça. Puis elle a vraiment embarqué dans le film sans connaître cet univers-là. Donc, je pense pas que... Je pense que c'est un film qui peut plaire à beaucoup de monde, gars, filles.
Oui. C'était un des gros enjeux pour moi de faire ce film, c'est de le faire de façon assez vulgarisée pour l'univers des jeux de rôle, pour que tout le monde comprenne. Que ça soit monsieur, madame, tout le monde, que ce soit des anciens fans, que ce soit n'importe qui, je pense que tout le monde connaît un peu le principe, mais pas besoin de le savoir parce que dans le film... je suis pas hyper pointu dans les règlements, j'exagère même des situations pour bien faire comprendre des trucs qui arriveraient pas dans des vraies parties de Donjons et Dragons ou de jeux de rôle, parce que justement j'ai préféré y aller avec des scènes qui font du sens, mettons, scénaristiquement, plutôt que d'y aller dans la pure respect de l'univers de toute façon Donjons et Dragons, que de toute façon qui est une marque de commerce que j'ai pas le droit d'utiliser dans le film. C'est pour ça qu'on est dans l'univers de Farador. Donc, les règles peuvent être n'importe quoi puisqu'on est dans un univers inventé. Donc, des fois, je recevais des mails à la suite du court-métrage où il y a des gens qui me disaient « Ouais, mais là, ça fait pas de sens. Ça se peut pas qu'un voleur de niveau 1, un paladin de niveau 76, et tout comme ça. C'est impossible que ça soit arrivé. » Ben, écoute, c'est un film, de un. Puis de deux, le but du film, c'est de faire rire, puis d'amuser les gens, puis de divertir. Donc, j'ai pas besoin de respecter les règles à 100%. J'ai juste besoin de les respecter assez, ou de respecter l'univers assez, pour que les gens trippent, puis qu'ils sentent pas que j'ai du mépris pour le trip. Au contraire, j'ai un grand amour pour les jeux de rôle, puis des trucs comme ça. Ouais.
Mais c'est vrai que
je peux rire de ceux qui jouent. Le but du film, c'était de rire de ce genre d'univers-là, à quel point des fois ça peut être exagéré, puis on peut vraiment partir dans tous les sens. Hein.
Mais c'est drôle parce que moi, je me serais attendu à ce que certaines compagnies, maintenant Disney, mais à l'époque, Lucasfilm, t'envoie un petit message en disant « Ouais, propriété intellectuelle. » On ne veut pas dévoiler de punch, évidemment, mais il y a une référence à un certain univers de science-fiction dans le court-métrage. On le ramène un petit peu dans le long métrage. Est-ce que tu avais peur de dire, si on fait le même gag, on va se faire appeler par Disney ou quelque chose?
Oui, c'est pour ça que j'ai pas utilisé le vrai nom du personnage en question dans le long métrage. C'est parce que, justement, je pense que dans le temps de LucasArts, ils s'en foutaient un peu, mais là, Disney, c'est un autre genre de business.
Oui.
Surtout que je fais faire des choses quand même assez... répréhensible à ce personnage-là. Ouais. Je pense pas que Disney serait content de voir un de leurs personnages commettre ces actes-là. Fait que je fais comme un hommage, parce que dans le fond, en fait, dans le court-métrage, la série Tom et ses chums, c'est les aventures d'un fan de Star Wars qui s'amuse à aller revoir des amis qui ont toutes des tribus différentes, tu sais, que ce soit les vampires, les ci, les ça. Ben là, justement, dans l'épisode 7, il arrive dans l'univers des jeux de rôle de vieux amis. Donc, ça faisait du sens que son personnage soit celui-là. Mais là, dans un long métrage qui est self-contained, mettons, ben là, ça a failli ne pas même pas avoir une référence. Fait que j'ai décidé de le garder par respect pour le cours puis pour les fans du cours. Mais en principe, j'aurais pu utiliser n'importe quel personnage avec un autre nom, et etc. Donc, j'ai été jusqu'à la limite du flou juridique, mettons. Mm-hmm.
Voilà, légalement, pas cette franchise-là. Voilà.
Mais tout le monde sait que c'est ça.
Voilà, exactement. Le film a déjà été présenté, évidemment, dans le cadre d'un festival. Là, ça va sortir grand public, ça, le 21 avril. Est-ce que t'as la rétroaction des gens, est-ce que c'est déjà bien? Est-ce que tu es content du feedback?
Ça, c'était une de mes grandes peurs. J'aurais pas aimé ça, présenter mon film, d'être gêné. Puis là, je suis pas gêné, parce que les fois que je les ai présentés à des foules de toutes les sortes, là, mm-hmm. J'ai quand même des bonnes réactions. Fait que voilà, tu sais, en grosse majorité, j'ai juste des bons commentaires. C'est sûr que là, le film n'est pas sorti grand public. C'est-à-dire que là, j'ai surtout eu des échos des fans puis du monde qui avait aimé de toute façon le cours. Donc, puis au moins, j'ai cette mission-là de remplir. Au moins, les gens qui ont aimé le cours aiment aussi le long. T'sais, j'aurais pas aimé ça que le monde dise ouais, c'est pas comme, tu sais, c'est comme une version polie et gouvernementalisée du court-métrage, mais non. Il y a quand même une bonne dose d'iconoclasterie et de trucs trash que j'ai su remettre dans le long, tout en quand même créant une histoire plus complexe et plus complète en général avec toute l'histoire.
Parfait. Est-ce que tu dirais tout public, 13 ans et plus? Je sais que la classification ne peut pas dire grand-chose, mais est-ce que tu dirais
pour tous, puis non seulement c'est pour tous, mais je pense que c'est un film qui est hyper propice à voir en gang au cinéma. J'arrête pas de dire le même truc, mais tu sais, si moi je croise quelqu'un dans la rue et il me dit j'ai vu ton film, je l'ai vu quand j'étais dans l'avion. comme vous l'avez vu aussi, tu sais, sur un lien internet.
Oui.
C'est pas, mettons, la façon optimale de voir le trip. Le trip, c'est de le voir au cinéma en gang, en mangeant du popcorn puis en riant. Quelqu'un qui me dit c'est ça, qui l'a écouté sur son cellulaire. C'est pas la bonne façon, là. Tu t'es tiré une balle dans le pied. Fait que voilà. Non, fait que je dirais que oui, c'est pour tous. Bien entendu, ma grand-mère comprendrait absolument rien du film. Mais pour le reste, je pense que tout le monde peut comprendre. Je pense que j'ai fait une histoire assez quand même. C'est d'autrement plus une histoire qui parle d'une amitié que des jeux de rôle, mettons. Ça parle autant de ça, donc n'importe qui veut voir un film sur une amitié, des amitiés qui sont fracassées et qui évoluent, je pense que c'est un thème universel pour tous.
Puis par rapport à justement en étant universel, quand on regarde le court-métrage, dans le titre ça le dit, c'est Tom et ses chums, c'est une gang de gars, c'est très masculin. Est-ce que c'était vraiment voulu justement d'amener plus de personnages féminins, entre autres le personnage de Catherine Brunet qui vraiment ajoute une autre dimension, comme un regard extérieur à cette gang de gars-là?
Oui, en fait, elle joue beaucoup le rôle que Tom jouait dans la série Tom et ses chums. D'ailleurs, dans la série Tom et ses chums, Kim, c'est la blonde de Tom. On la voit pas dans tous les épisodes, mais on la voit dans le premier, dans le dernier, et dans quelques épisodes. Donc, j'ai fait revenir ce personnage-là pour qu'elle prenne un peu le même rôle que Tom, c'est-à-dire d'être le regard extérieur sur tout ça. Et dans le fond, le personnage auquel, mettons, des gens qui connaissent pas Donjons et Dragons peuvent s'identifier. D'ailleurs, elle se fait expliquer des trucs dans le film, justement, pour que les gens, tu sais, comme ça, justement, quand elle commence à jouer avec les gars, ils se font dire oh, on a invité un cléric, elle ne sait pas c'est quoi un cléric, quelqu'un doit lui dire c'est un genre de médecin. Mm-hmm. C'est justement une ligne qui sert justement à pour que tout le monde qui ne connaisse pas l'univers des jeux de rôle comprenne c'est quoi le personnage qui arrive. Fait, donc, ce personnage-là est vraiment le regard extérieur et aussi le catalyseur de tous les changements parce que le personnage central de l'histoire, c'est Charles. Charles, il a ses amis. Charles, il a sa sœur. Charles, il est encore ami avec celui qui est parti. Donc, vraiment, Charles est comme le personnage central sur lequel tous les autres personnages gravitent. Et sa sœur est très importante dans cette combinaison-là parce que, justement, elle arrive avec un regard frais là-dessus, puis un regard extérieur qui permet aux gars, qui oblige les gars à se questionner sur leur mode de vie.
Et peut-être une dernière question avant de terminer, puis c'est pas une surprise, on divulgâche rien, mais est-ce que toi tu lirais un roman médiévalo-érotique comme Le Talisman du désir?
Ça dépend. Ça dépend de la pochette. La pochette, c'est des magiciens en jackstrap avec des baguettes magiques, je pense pas. Mais si c'est à la Game of Thrones plus qu'à la Fifty Shades of Grey, je pense que je lirai un genre de roman.
Excellent. Kevin, je sais pas si tu avais peut-être une dernière question avant qu'on termine ça, ou sinon on peut. Voilà, ça peut être aussi.
Peut-être qu'on n'a pas beaucoup parlé de. Je pense que c'est important de mentionner, on a parlé beaucoup des personnages, les adolescents, tout ça, mais de mentionner que c'est vraiment un film quand même à grand déploiement. Vous avez tourné dans des châteaux en France, il y a des armures, des costumes, il y a des monstres. Encore là, on révélera pas de surprise, mais à la fin, il y a une créature très mémorable, tout ça. Fait que je trouve ça... Si tu peux nous parler un peu justement de tout ce que... Ça devait être vraiment le fun pour vous de pouvoir... avoir plus de budget quand même pour réaliser tous ces trucs-là?
Écoute, en fait, ça a été comme une bénédiction. J'aurais aimé ça avoir du financement de tous les partis canadiens et québécois, mais le fait de ne pas avoir eu une partie du financement nous a obligés à aller voir en Europe, et ça a été une bénédiction parce que ça nous a obligés... Tu sais, si le film est, mettons, je dis des chiffres comme ça parce que je ne suis pas dans la production tout à fait, mais... si, mettons, il y a un tiers du budget qui provient d'Europe, donc il faut qu'il y ait un tiers des effectifs qui proviennent d'Europe du film. Donc, c'est pour ça que, mettons, la trame ou le mix sonore est fait en Europe. Une partie du tournage a été faite en Europe. Il y a un comédien belge dans le film. Et encore, lorsqu'on est en France, c'est tous des comédiens français. Donc, le fait d'avoir eu du financement en Europe nous a obligés à aller tourner en Europe. Et quelque chose que l'Europe a et que le Québec n'a pas, c'est une grosse culture médiévale. Donc, des châteaux, des costumes, toutes sortes de choses. Ils ont accès à ça beaucoup plus facilement que nous parce qu'ils ont vécu cette époque-là, pas nous. Et nous autres, notre seul château qu'on a au Québec, c'est le château Frontenac. Puis ça fait pas bien dans l'époque. Fait que nous autres, on est arrivés dans un village en France, en Basse-Normandie, où il y avait deux châteaux, dont un qui était en ruine. Puis le maire nous a dit, ben, allez tourner dedans, on vous donne la permission, salut, bonsoir. Alors que, tu sais, ça aurait été hyper compliqué au Québec de trouver ce même genre de décor-là. Il aurait fallu construire, peut-être fallu faire du blue screen, etc. Donc, tout à l'heure, plus vrai, la taverne médiévale dans le film, c'est un des c'est les catacombes d'un de ces châteaux-là, justement, qu'on a transformé en taverne. Donc, oui. Mais tu sais, on dirait que c'est un grand déploiement, mais c'est pas tellement un grand déploiement parce qu'on a quand même des budgets restreints. C'est juste que pour les mêmes moyens, ça look beaucoup plus d'aller tourner à l'étranger comme ça parce que, justement, à cause que les décors sont vrais, on n'est pas en studio. Il a juste fallu trouver une équipe là-bas, trouver des comédiens là-bas, etc. Et hop, c'était parfait. Là. Donc, c'est ça que ça a permis de faire, d'aller à l'étranger, c'est d'avoir des décors, des comédiens, des phases, des figurants qu'on n'a pas ici, et donc rajouter un peu plus de la production value au film.
Excellent. Édouard Tremblay, réalisateur du film et co-scénariste aussi, on va le dire, évidemment, on va le rappeler. Donc, réalisateur, co-scénariste de Faradar, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et évidemment, Faradar prend l'affiche le 21 avril. Kevin, merci évidemment d'avoir été là aussi avec moi pour parler de ce film.
Oui, merci Hugo. Merci Édouard d'être venu à l'émission.
Merci beaucoup à vous.
Et bien évidemment, avant de vous laisser, je vous rappelle que si vous voulez des épisodes de Rembobinage en primeur, donc en avance, un mois à l'avance, vous pouvez vous abonner sur Patreon à la tranche de 5 $. Comme je disais à chaque fois depuis maintenant quelques semaines, c'est des films faciles à trouver, c'est des films qui sont classiques d'habitude. Pour l'instant, c'est tous des classiques. Le plus récent épisode, c'est Pulp Fiction. Donc, si vous voulez avoir accès à tout ça en avance, c'est sur notre Patreon. Sur ça, je vous dis merci et à bientôt.